50. 17h14. Le panneau de l'arrêt littoral tremblait. Le Mistral avait gagné en force tout au long de la journée. Dès que Layli mit un pied en dehors du bus, elle sentit le vent s'engouffrer sous sa tunique. Layli semblait s'être équipée en prévision de la tempête et portait à chaque main un lourd sac de courses. Du lait, des oranges, un poulet, des pommes de terre. 3 kilos à chaque bras. Claudiquant, elle suivit le trottoir en direction des bâtiments G et H des Aigues Douces, longeant les rideaux de fer tiré des commerces fermés. Rien à voir avec le risque de raz-de-marée. Beaucoup de magasins avaient définitivement déposé le bilan. Les devantures grises servaient d'ardoise pour tous les taggeurs du quartier. Les couleurs chaudes et les formes primitives lui rappelaient les gravures rupestres des Dogons dans les grottes de la falaise de Bandiagara, au nord du Mali. C'était parfois plutôt réussi, tout comme ce vaste espace de jeu entre la mer et les immeubles installés par la mairie. Jets d'eau, pont de singe, balançoire, mini-ring de boxe, mini-piscine, les gosses pouvaient jouer sans danger face à la mer, surveillés de chaque balcon des bars des Aigues Douces. 8 blocs de 8 colonnes d'appartements empilés sur 8 étages. Un bel endroit pour grandir. Même si les immeubles étaient rongés de l'intérieur par le cancer du temps, interphone cassé, boîte aux lettres éventrée, quels habitants auraient accepté de déménager? Layli doubla le coin de l'immeuble G14. Une bourrasque la cingla aussitôt. Au bas des immeubles, le Mistral jouait aux éboueurs hystériques. Il soulevait sacs plastiques, cartons, polystyrène, mégots, canettes, tous les déchets accumulés des poubelles trop pleines, des conteneurs mal vidés que le vent se chargeait de disperser. Grand nettoyage au karcher des courants d'air. Tout finirait à la mer, et demain matin, le béton du quartier serait comme purifié. Layli, lestée, ployait, tête baissée. Elle ne vit pas la Mercedes classe C s'arrêter le long du trottoir, quelques mètres devant elle. Elle ne vit pas l'homme sortir. Elle aperçut seulement la lumière des phares clignoter quand il la verrouilla. Un homme, d'une 60aine d'années, grand, élégant, dans un costume aussi impeccablement coupé que sa berline, du genre qui ne s'aventure dans le quartier que quelques mois avant les élections. Un élu? Un fonctionnaire? Un homme d'affaires? Layli ne l'avait jamais croisé. Layli Mal? Apparemment, lui la connaissait. Jourdain Blanc-Martin. Layli s'arrêta. Il avança et, d'un geste qui lui sembla aussi naturel que de lui serrer la main, proposa de lui porter ses 2 sacs. Elle ne refusa pas. Jourdain Blanc-Martin. Le patron de Vogelzug, l'enfant star du quartier. Layli savait qui il était, évidemment. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, Madame Mal. » « Vraiment ?» Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. « Je peux vous accompagner jusqu'à votre cage d'escalier ?»« Vous pouvez même monter mes courses jusqu'au 7e étage. » Malgré sa répartie, Layli restait sur ses gardes. Jourdain Blanc-Martin ne l'avait pas accosté par hasard. Il tardait à abattre son jeu. Il marchait à côté d'elle, charmant, souriant, galant. Mais elle avait pris l'habitude de se méfier des mains tendues. Blanc-Martin leva les yeux vers la façade du bâtiment le plus proche et fixa les serviettes qui volaient au balcon, les paraboles qui tremblaient, les étendoirs à linge désarticulés. « C'est ici que j'ai grandi, » fit-il. « Bâtiment G12. École Victor Hugo, collège Mistral. Rien n'a vraiment changé depuis une 50aine d'années. « Qu'en savez-vous ? » répliqua Layli volontairement cassante. « Que pouvez-vous comprendre aux gens qui habitent ici aujourd'hui ?» Blanc-Martin marqua un long silence, observant cette fois la mer déchaînée. Vous avez raison, Layli. J'habite à 1 kilomètre des Aigues Douces. Et je crois que la dernière fois que j'y ai mis les pieds, c'était pour déménager ma mère, il y a plus de 20 ans, pour vider son appartement du bloc G12 et l'installer dans une villa sur les hauteurs de Saucelles-les-Pins. J'avais tout décidé pour elle. Ma mère ne me l'a jamais avoué, mais elle a toujours regretté ce quartier. Elle se désintéressait de toute forme de richesse. Elle possédait ce luxe absolu d'être heureuse au point de mépriser l'argent. Ils s'arrêtèrent et se tournèrent tous les deux, embruns dans le dos, écrasés par les 8 étages des bars face à eux. « Que me voulez-vous, Blanc-Martin ?» Le président sembla soulagé que Leïli fasse le premier pas. « Vous prévenir. Vous aider. Je connais votre histoire. Chaque étape de votre histoire. Je sais à quel point vous avez souffert pour arriver jusqu'ici. Je sais quelles épreuves vous avez endurées, quels sacrifices vous avez dû accepter. Votre parcours est une guerre, Leïli. » Il marqua un silence appuyé, sans quitter des yeux les balcons encombrés. Je sais le nombre de morts que vous avez dû abandonner derrière vous. Leïli le fixa sans parvenir à attraper son regard fuyant. Elle hésita à reprendre ses sacs de course et à le planter là. Prévenir quelqu'un d'un danger n'est souvent rien d'autre qu'une menace déguisée. Je n'ai pas besoin de votre aide. Blanc-Martin ne la regardait toujours pas, mais il avait arrêté ses yeux à la hauteur du 7e étage, bâtiment H9, son balcon. Blanc-Martin savait où elle habitait. Il continua de soliloquer de sa voix doucereuse qui se teintait à nouveau d'ironie. « Vous aimez raconter votre histoire, Leïli. Qui pourrait vous en blâmer? Elle est si édifiante, tellement passionnante. Quel courage, quel exemple. Qui pourrait demeurer insensible à un tel destin ? » Leïli avança d'un pas déterminé vers la cage d'escalier du bloc H9, portée par le vent. Le président de Vogelzug la suivit, 1 mètre derrière elle, alourdi par sa charge. Leïli balaya la façade de l'immeuble du regard pour tenter d'apercevoir Guy au balcon du 6e étage, ou même Camilla. Personne. À cause du mistral, chacun s'était barricadé. Parvenue au bas de l'immeuble, elle se retourna. Le mistral lui cingla le visage. Une nouvelle fois. Que me voulez-vous, Blanc-Martin ? Surveillez vos enfants. Pardon ? Je n'ai rien contre vous, Leïli. Mais vous devez nous aider à trouver votre fille Bambi. Votre fille Bambi et votre fils Alpha. Leïli ne répondit pas. Elle attendait désespérément que quelqu'un sorte de la cage d'escalier. Son gilet volait. Les mots de Blanc-Martin la giflaient davantage encore que le vent. Elle tendit les mains pour que le président lui rende ses sacs de provisions. « Je suis pressée, Blanc-Martin. Je dois aller récupérer mon petit garçon. » « Comprenez bien, Leïli. Bambi et Alpha sont en danger. » Ma fille n'a rien à voir avec ces assassinats. Pas plus que mon fils n'est un voyou. Vous n'êtes pas flic. Je ne comprends rien à vos sous-entendus. » Elle attrapa d'un geste violent les 2 sacs plastiques. Blanc-Martin la retint par le poignet. « Je vais être plus précis, alors. Je connais votre secret. Je sais que vous n'êtes pas celle que vous prétendez. On vous croit sur parole. On vous fait confiance. On vous admire, Leïli. On vous plaint. On vous aime. Vous séduisez. Vos voisins, vos patrons, vos parents, vos enfants, vos logeurs, vos créanciers, jusqu'aux policiers. Comment pourraient-ils se douter qu'ils se font tous superbement manipuler ? Vous êtes fou ! Non, Leïli. Ni vous ni moi ne le sommes. Vous le savez aussi bien que moi. Vos mensonges sont parfaitement maîtrisés. Mais dans le cerveau de vos enfants, ils ont semé la folie. Vous délirez! Leïli s'enfonça dans l'escalier sombre le plus vite qu'elle put, à l'abri. Pas assez pour ne pas entendre les derniers mots de Blanc-Martin. Réfléchissez, Leïli. Je n'ai qu'un mot à prononcer. Et tout ce que vous avez patiemment construit sera perdu.